Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue aux curieuses et aux curieux qui ont la bonne idée de nous rejoindre sur RTL.
C'est la bonne heure, 21h04.
C'est l'heure parfaite. Et puis, vous savez que si vous avez des questions, c'est votre émission. Alors, appelez-nous au 3210. Écrivez-nous sur Twitter, hashtag la curiosité RTL ou sur RTL.fr. Diane attend de vous parler.
Il est né le 28 février 1895 à Aubagne, dans cette Provence qu'il a si bien décrite. Samedi, on célèbre donc les 120 ans de la naissance de Marcel Pagnol. Et dans la curiosité ce soir, on tisse les liens entre sa vie et les personnages qu'il a créés avec notre invité Karine Anne. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, membre du jury du prix Marcel Pagnol. On va retracer sa vie ensemble. Mais d'abord, une petite anecdote pour commencer. Comment travaillait-il sur ses films? Est-ce que c'était un réalisateur, Marcel Pagnol, qui avait tout écrit, tout prévu avant le tournage de la première scène?
Je pense que c'était les deux, c'est-à-dire qu'il avait tout écrit, tout prévu et qu'il changeait tout. Voilà, donc ça n'était pas du tout un amateur ni un dilettante, c'était un grand professionnel, c'est quelqu'un qui favorisait les dialogues, qui avait vraiment conscience du fait que tout le film résidait dans l'art du dialogue justement, mais qui était capable de réécrire une scène dans la nuit et de donner les feuillets le matin à ses acteurs.
Parce qu'il avait ce talent-là,
cette facilité-là, et je pense que ça pouvait en angoisser certains, parce qu'en fait les choses étaient écrites pour lui dans sa tête, mais voilà, il pouvait modifier au dernier moment, avoir une idée, et ça a été valable d'ailleurs aussi pour Manon Desources à la fin de sa vie, quand il s'est attaqué au roman.
Oui.
D'un seul coup, vers la fin de l'écriture, il a eu ce trait de génie de se dire, et finalement, et si César Soubéran pouvait être le grand-père de Manon, ça serait encore plus affreux et encore plus romanesque.
Et donc dramatique. Il a repris toute la trame de...
Ben, il n'a pas repris, il a fait cette bascule.
D'accord.
À la fin de l'œuvre, où en fait César Soubéran se rend compte qu'il a scié la branche de sa propre famille, si vous voulez.
Et toute l'histoire prend une autre dimension.
Voilà.
Marcel Pagnol, qui réécrivait des scènes dans la nuit ou quelques heures avant qu'elles soient interprétées par les acteurs, il y en a un que ça angoissait, c'est Fernandel, l'un des acteurs fétiches de Pagnol, par exemple, dans Topaz.
Ai-je le plaisir de parler à monsieur Topaz?
Oui, monsieur, oui, c'est moi, oui. En quoi puis-je vous servir?
Et en rien, monsieur. Ce n'est point pour vous demander votre aide, mais pour vous offrir la mienne que je suis venu ici aujourd'hui.
Je vous remercie par avance, mais j'aimerais assez savoir qui vous êtes.
Qui je suis? Un vieux philosophe qui a la faiblesse de s'intéresser aux autres. Vous avez dû lire avant-hier dans une feuille publique un écho qui contient une allusion assez nette à certaines affaires que vous avez traitées.
Oui, monsieur. Il m'a semblé en effet que le pion douteux pouvait bien s'appliquer à moi-même. Mais j'ai jamais été révoqué pour une affaire de mœurs.
Topaz, c'est l'adaptation au cinéma d'une pièce de Pagnol. Cette version avec Fernandel, est-ce qu'elle a été un succès?
Oui, mais Topaz est la première pièce qui a eu du succès, en fait. Hein. On pense que c'est Marius qui a vraiment lancé Pagnol, et c'est pas le cas. En fait, c'est Topaz qui a servi de désinhibiteur à Pagnol pour oser exhumer de ses tiroirs une pièce marseillaise.
Et donc il a écrit Topaz, pour qu'on comprenne bien, avant
oui,
Marius.
Bien sûr.
D'accord.
Oui, il a écrit Topaz a été joué, et ça a d'ailleurs très très bien marché. Et c'est parce que ça a très bien marché que Pagnol a osé se dire, et si j'essayais de donner la pièce Marius.
Bah, c'est un succès, Topaz, et pourtant Fernandel et Marcel Pagnol vont se fâcher. Pourquoi?
Ça, c'est beaucoup plus tard, après avoir tourné des choses magnifiques ensemble. Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le choc de deux égos. Ça, c'est une évidence. Quand Pagnol fait tourner Rému et Fernandel, c'est compliqué parce qu'il faut chaque fois parce qu'ils sont devenus de grands acteurs, hein, dans l'intervalle. Donc, s'il y a un gros plan sur l'un, il faut qu'il y ait un gros plan sur l'autre. Et il y a cette anecdote adorable où Pagnol a donc fait tourner Josette Day dans La fille du puisatier, dont il était éperdument amoureux. Et en fait, les affiches marquaient en énorme Josette Day dans La fille du puisatier avec Rému et Fernandel en tout petit. Et quand on a mis cette affiche...
Ça n'a pas dû leur plaire.
Voilà. Et en fait, Rému était attablé à la terrasse d'un café quand il a vu un monsieur mettre cette affiche dans la colonne Maurice. Il était absolument ulcéré. Et il s'est levé en disant « Ah bien voilà, Blanche-Neige et les deux nains
!» Alors vous allez continuer de nous raconter pourquoi Fernandel s'est fâché avec Pagnol. Pourtant, Marcel Pagnol, c'est d'une certaine façon celui qui l'a découvert, qui a osé lui offrir un rôle important. On écoute justement Pagnol qui raconte comment il a choisi Fernandel.
Je l'avais vu dans un grand film où il jouait un très petit rôle, où le général demandait si la soupe était bonne et Fernandel lui répondait deux répliques. Et je lui ai dit, voilà un acteur, c'est quelqu'un qui sait jouer la comédie, qui a le don du comédien. Mais je ne l'avais jamais vu autrement. Et lorsque j'ai eu besoin de distribuer le rôle de Saturnin dans Angèle, j'ai dit à mon frère, monte à Paris et va voir si Fernandel veut jouer. Fernand est venu, beaucoup de gens se sont moqués de moi en disant, il veut faire jouer un comique, un pitre dans un grand rôle. Et il a eu un triomphe immédiat.
La voix de Marcel Pagnol, il n'avait pas l'accent marseillais.
Pas tellement, non.
Ouais,
il a une voix très chaude, mais non.
Une belle voix,
d'ailleurs. Oui, il a une très belle voix.
Alors donc, cette brouille avec Fernandel, elle se construit sur quoi dans la durée ?
Eh bien, c'est intervenu, en fait, dans le dernier film qu'ils ont fait ensemble, qui n'a d'ailleurs pas très bien marché, et Pagnol n'était pas complètement sur le film, c'est Carnaval. Mmh. Et donc, déjà, c'était compliqué, parce que Fernandel était un angoissé. Donc déjà, la manière de travailler de Pagnol ne lui convenait pas, parce que justement, les scènes qu'on donnait le matin, juste avant de tourner, alors là, ça le stressait complètement. Et puis, il y avait ces brouilles qui étaient de plus en plus fréquentes. Et chacun attendait sur le lieu du tournage l'explosion qui ne manquerait pas d'arriver. Elle est arrivée un jour où Pagnol a dit à Fernandel, tu n'es qu'un pitre, un paillasse, un grimacier. Alors, sur le moment, Fernandel était ulcéré. Il a demandé que ça soit Verneuil qui reprenne la réalisation. Enfin bon, les choses se sont un petit peu envenimées. Et puis, on a réussi à calmer Fernandel qui voulait quitter le tournage. Et il a reçu un pli. Il était dans sa loge et il a reçu une lettre. Et c'était une lettre de Pagnol. Donc, en fait, il était assez satisfait. Il a ouvert cette lettre et à la cantonade, il a dit, ah, enfin, une lettre d'excuse, et il a ouvert cette lettre et il y avait marqué « Mon cher Fernand, on le dit parfois beaucoup de choses sous le coup de la colère sans réfléchir, donc maintenant que j'ai réfléchi, je te confirme, tu n'es bien qu'un pitre, un grimacier et un paillasse. » Voilà, et ça a été le dernier film. Ça a été fini.
On reviendra évidemment sur la carrière cinématographique de Pagnol, mais on va raconter dans un instant son enfance, il vient d'où, il est né où, comment il a grandi, Marcel Pagnol. À tout de suite sur RTL dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. Jusqu'à 22h.
Et qu'est-ce que c'est que le Spunt ?
Oh. RTL.
Ai-je le plaisir de parler à monsieur Papa ? Oui, monsieur, oui, c'est moi, oui.
La curiosité est un vilain défaut.
Il a vu retourner la pomponnette.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir sur RTL, on vous raconte comment Marcel Pagnol est devenu un monstre sacré de la littérature et du cinéma français avec Karine Hahn, grande spécialiste de l'œuvre de Pagnol. Vous publiez Marcel Pagnol, un autre regard aux éditions du Rocher. Où il est né et quand, Marcel Pagnol ?
Et alors, il est né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. il est né, et en fait, on fête ses 120 ans samedi, mm-hmm. et la ville d'Aubagne est en fête. Donc, il est né en 1895. Il aurait eu 120 ans.
Que font ses parents ?
Alors, son père est instituteur. Sa mère est couturière et comme son grand-père était tailleur de pierre, il avait fini, au dire de Pagnol, par concevoir le fait qu'il n'y avait rien de plus beau que l'instruction. Donc il avait décidé que ses enfants, il en a eu cinq, que ses enfants seraient tous instituteurs. Ce qui fait que Joseph est devenu instituteur et il y avait dans cette famille une religion du savoir. Donc tout petit, le petit Marcel baignait dans un bain, j'allais dire, culturel important. S'il passait à côté d'une fontaine, il fallait qu'il calcule le bassin qui fuit et qui perd et voilà, et l'eau qui se remplit et voilà.
C'est pas toujours facile d'avoir un papa instituteur.
C'est un enfant précoce, Marcel Pagnol ?
Oui, ben forcément. Quand on est dans ce genre de d'environnement, oui, voilà. Quand il y avait des orages, d'ailleurs, il le dit dans les souvenirs d'enfance, les orages engendraient immanquablement des dictées. Donc voilà, dès qu'on peut pas sortir, c'est joli. Oui. Ouais, et donc en fait voilà, tout était prétexte à l'apprentissage et au savoir, et donc oui, ça a été un enfant précoce. classe, il a appris tout seul à lire.
Et il va devenir instituteur comme son père ?
Alors, il ne devient pas instituteur, il devient répétiteur parce que lui, il va avoir une licence de lettres. Il est licencié S-lettres et en anglais, donc il devient répétiteur en lettres et en anglais au lycée Condorcet. Enfin, après des lycées à La Plagne, etc., il arrive à Condorcet à Paris.
Alors on a raconté l'histoire de on va avancer dans le temps hein, forcément on a raconté l'histoire de la relation entre Marcel Pagnol et Fernandel. Il y a une autre grande histoire à raconter forcément celle de que Pagnol a tissé, cette relation que Pagnol a tissé avec Rému. Alors ça démarre avec une pièce que vous avez évoquée rapidement tout à l'heure, c'est Marius, c'est
oui,
ça
oui.
Alors Marius, c'est il a quel âge Pagnol quand Marius devient un succès?
Il arrive en fait à Paris en 1922.
Donc il a 27 ans, c'est ça?
Oui, voilà, il est une petite trentaine. Mmh. Et voilà, et alors c'est vraiment c'est presque Rastignac, hein. C'est à moi Paris, hein. Il arrive dans un Paris à l'activité théâtrale intense, donc pour lui c'est formidable. Vous avez la première de La Mouette de Tchekhov qui va être jouée dans le théâtre des Pitoëv. Vous avez Louis Jouvet qui prend la direction de la Comédie des Champs-Élysées, qui a sur son bureau les manuscrits de Jean Giraudoux. Voilà, il y a tout plein
une effervescence créative.
Ah oui, Pirandello commence d'être joué aussi.
Donc il se fait une place facilement finalement, Marcel Pagnol, dans ce théâtre parisien.
Au départ, il est en tandem avec Paul Nivois qui travaille à Comédia parce qu'il a vraiment envie de percer dans ce milieu. Donc il est introduit dans les milieux, il va dans les coulisses du théâtre, il se fait des amis dans ce milieu-là et il écrit Les Marchands de gloire en collaboration avec Paul Nivois. Et Les Marchands de gloire, de sa propre analyse, c'est une pièce qui ne marchera pas parce qu'il dit qu'il fait un théâtre dans la veine de celui de Beck, un théâtre de bibliothèque. C'est-à-dire que c'est une très jolie pièce, mais qui est un peu sombre. C'est une pièce qui montre, si vous voulez, la morale de la pièce, c'est qu'il n'y a de héros que morts. Et ça, à cette époque-là, on n'a plus tellement envie. On sort en fait de la guerre de 14. Mmh. Les gens ont envie un petit peu de légèreté entre ces deux guerres, hein. Et donc cette pièce, elle est un peu grave et elle ne plaît pas. Mais il ne se décourage pas.
Donc il va oser quoi ? Mettre de la Provence dans ses pièces ?
Alors pas tout de suite, il va d'abord représenter Topaze, qui est une pièce qui n'est absolument pas provençale, mais qui a encore un petit peu cette noirceur. Donc parce que c'est la prévarication, on dénonce la noirceur du monde. En fait, voilà, ce pion qui est quelqu'un d'honnête et d'intègre ne réussit pas. Les palmes académiques lui passent sous le nez. Et c'est le jour où il commence à devenir un politicien véreux que tout lui tombe, tout lui tombe, voilà, dans le bec. Donc ça, c'est quelque chose qui le quittera progressivement, cette dénonciation de la noirceur du monde, etc. Il va vraiment trouver son style avec Marius lorsqu'il présente cette pièce au Volterra. Et Simon et Léon Volterra lisent cette pièce et la trouvent absolument formidable. Lui, il est persuadé que ça ne marchera qu'à Marseille. Et eux lui disent, mais non, pas du tout, ça ne marchera pas qu'à Marseille. On va la donner, nous, à Paris, et tu vas voir, ça marchera.
Et Karine Anne, c'est le rôle de César est tenu par Rému. Oui. C'est ce qui était prévu au début par Marcel Pagnol ?
C'est, quand ils ont fait le casting, Pagnol ne le connaît pas. Mais quand ils ont fait le casting, Pagnol, réfléchit aux acteurs. Il voulait Pierre Blanchard, il réfléchit aux acteurs. Et il dit, moi, je verrais bien Rému dans le rôle de Panis. Et donc Volterra lui dit, ok, d'accord, Rému, mais bon, je dois te prévenir, c'est un emmerdeur. C'est vraiment quelqu'un qui a un talent fou, mais c'est vraiment un emmerdeur de première. Donc tu vas vraiment ramer avec lui. Mais Pagnol persiste et dit, non, quand même, moi il me plaît, c'est un acteur qui a vraiment du relief. Et les emmerdements, entre guillemets, commencent dès l'arrivée de Rému, qui immédiatement dit, moi je ne veux pas du rôle de Panis, il n'est pas question, étant donné que l'action se situe chez César Olivier, il n'est pas question que Monsieur Charpin, c'est Monsieur Charpin qui doit venir chez Monsieur Rému et pas l'inverse. Donc ça sera mon bar. Et il va voir le chef décorateur et il demande de faire écrire sur le bar chez César. Donc voilà, il prend ses marques sur le.
Encore l'ego des comédiens, voilà, dont on parlait. Alors Pagnol et Rému se sont écrits, ça a été une longue amitié, oui, très longue amitié, une correspondance qui a donné une pièce magnifique, Jules et Marcel, avec Michel Galabru dans le rôle de Rému, Philippe Cobert dans celui de Pagnol. On en écoute un extrait.
Charles Moulin pour le rôle du berger.
Très bien, Charles Moulin.
Tu l'as entendu parler ? Tarzan, grosse tête et petit cul, ne me plaît pas du tout. Sépare-toi de tous tes courtisans. Tu écoutes trop tes amis et tes gens qui t'entourent, qui te disent que quand tu pètes, tu sens la fleur d'oranger.
Je suis content quand tu m'écris, je lis ta lettre à tout le monde, en coupant, bien entendu, tout ce qui pourrait faire de la peine à quelqu'un. Hein. Ce qui fait que j'en lis peu.
Très très belle pièce, Jules et Marcel, Rému et Pagnol, histoire d'une amitié. Qu'est-ce qui les rapproche en dehors de leur Provence natale ?
Je crois que progressivement, alors déjà la Provence natale c'est pas rien, parce que c'est quand même, ils vont se retrouver chez Titain qui est un restaurateur marseillais, donc qui fait un peu la liaison au départ, c'est là que naît leur amitié.
C'est à Paris.
Qui est à Paris, oui, absolument. Mais après, je crois qu'il y a une espèce de dialectique artistique entre eux, hein, c'est-à-dire que Pagnol se nourrit de Rému, et Rému a ses plus beaux rôles par Pagnol. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une telle osmose entre l'interprète et le dialoguiste, enfin, et le dramaturge, que Pagnol écrit en pensant à Jules, et en se disant, oui, là, voilà, cette tirade-là, il va me la faire avec sa voix de Stentor, et ça, ça va marcher, et ça, c'est un rôle pour lui, et je pense notamment à la femme du boulanger, il a beau s'en défendre, il l'écrit pour lui.
Et pourtant, cette amitié, Karine Anne, entre Pagnol et Rému, sera orageuse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va les différencier, les affronter ?
Mais parce que rien ne peut être simple avec Rému, tout est orageux. Et Freinet avait une explication qui, je pense, est tout à fait judicieuse. Il disait que Rému avait une espèce d'instinct du théâtre. Il savait comment la scène devait être jouée.
Et pas Pagnol ?
Alors, si, enfin, je reviendrai sur un exemple tout à l'heure. Rému avait vraiment cet instinct, mais il n'avait pas la culture ou l'érudition pour l'expliquer. Donc, au bout d'un moment, ça partait dans une colère pas possible, parce qu'il savait que c'était comme ça qu'il fallait le jouer, mais il ne savait pas expliquer pourquoi. Donc, quand on lui avançait des arguments, il ne savait pas les contrer. Au bout d'un moment, ça explosait. On faisait ce qu'il avait demandé et il avait raison. Et la partie de cartes, Pagnol l'avait retirée en pensant que ça allongeait un petit peu la pièce, et c'est Rému qui l'a remis sans le dire à Pagnol.
Alors on en parlera dans un instant, on a retrouvé là aussi une archive sonore savoureuse sur cette histoire de partie de cartes. Pagnol, pour qui le comique, le tragique se frôle, se mélange dans ses œuvres comme dans la vie. Restez avec nous, on vous raconte cette existence passionnante.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce soir, on vous raconte Pagnol, ses textes, sa langue et son accent aussi. Je me suis un peu moquée de Thomas Hugues en disant que Pagnol aurait prononcé ce titre anglais avec un accent français, mais pas du tout. Karine Anne, notre invitée, a corrigé et a précisé que Pagnol avait un formidable accent anglais.
Oui, t'es professeur d'anglais, oui.
Voilà, donc j'aurais dû dire... Vous
mais moi aussi, j'ai un formidable accent anglais quand je fais un effort.
Oui, on en reparlera. Karine Anne, vous nous parliez de cette pièce mythique, Marius, et de cette fameuse partie de cartes qui n'a failli ne pas être dans cette pièce parce que Pagnol voulait l'écarter. Et puis finalement, c'est Rému qui a insisté pour la jouer.
La partie de cartes, justement, avant les répétitions, je l'avais coupée parce que je m'étais dit, elle ne fait pas avancer l'action. En somme, c'est un sketch. Et c'est un sketch qui fait penser à Courteline. Je l'avais caché à Volterra, notre directeur, cette scène. Mais Rému qui tenait à la jouer, et c'est allé lui dire, tu sais, Léon, il a un sketch étonnant qu'il faut absolument que nous montions. Rému insistait tellement, je l'ai laissé, mais avec un certain remords, en me disant, ce n'est pas dans la tradition classique, il faut mettre un sketch au milieu d'une pièce bien faite.
Et finalement, la scène, évidemment, est une réussite totale.
Standing ovation, oui.
Standing ovation. Ah,
oui. C'est dingue de se dire qu'on a failli passer à côté, finalement, d'un des plus grands classiques.
Oui. Donc il faut écouter les acteurs et les comédiens.
Ah, surtout Rému, il avait un instinct très sûr, oui.
Et donc Pagnol l'écoutait. La preuve.
Il n'y avait pas trop le choix, oui.
Parce que le caractère de Rému était fait comme ça.
Oui. Et quand ils ont tourné le film de Marius à partir de la pièce, ils sont donc partis à Hollywood. Et la voix de Rému dès que Rému commençait de parler, l'ingénieur du son sautait en enlevant son casque en disant « mais ça, c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est trop fort ». Et Pagnol lui disait « il va bien falloir que vous y arriviez, parce que vous, on peut vous remplacer alors qu'on ne remplacera pas Monsieur Rému ».
Et si on l'écoutait,
cette partie de carte, allez, un petit plaisir.
Si vous continuez à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi. Hein.
Ne vous fâchez pas, Panis, ils sont cuits.
Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Panis se coupe à cœur.
Et il continue à faire des grimaces. Tenez, Monsieur Brun, surveillez Scartefigue, moi je surveille César.
Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, là, un bandit de grand chemin. Tu me fais plaisir. Merci. Tu me fends le cœur.
Allons, César.
Il n'y a pas d'allons, César. Tu me fends le cœur. Et alors, Scartefigue, qu'est-ce que nous faisons alors? Alors nous jouons plus, quoi? Il me fend, à moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire, alors à toi, il te fait rire, à toi.
Oh, très bien. Compris. T'es cœur et...
On rêve tous de s'engueuler comme ça.
Oui, c'est génial. Vous, Karinane, vous nous avez dit Hollywood. Pourquoi Hollywood, il allait tourner ses films là-bas?
Non, mais le premier Marius a été tourné par Alexandre Korda.
Ah, d'accord.
Oui, le cinéma parlant, au départ, il est arrivé de là-bas.
Mmh. Pagnol, qui a été reconnu aussi par le cinéma américain, il a reçu des prix là-bas.
Oui, l'intelligence de Pagnol, en fait, ça a été de bien s'entendre avec Alexandre Korda, justement. Le premier film parlant, il l'a vu à Londres. C'était avec Bessie Love, Brodo Melody. Alors Pagnol était phobique. On lui avait prédit qu'il mourrait noyé, donc il voulait pas traverser la Manche. Mais là, vraiment, on a insisté. On lui a dit, il faut vraiment que tu ailles voir ça. Et quand il est revenu, il a été absolument bouleversé. Il s'est dit, là, c'est quelque chose qui va révolutionner l'histoire du cinéma. Plus jamais le cinéma muet ne pourra exister tel qu'il existe. Maintenant que le cinéma parle, c'est formidable. Mais il n'en avait jamais fait. Donc il a bien fallu qu'il s'appuie sur quelqu'un. Et la force qu'il a eue, ça a été d'imposer et sa troupe et son texte. Parce qu'en fait, les producteurs avaient tendance à acheter des textes à des dramaturges français, à les réécrire complètement et puis à les faire jouer avec des acteurs nouveaux ou des acteurs du muet, ce qui était encore pire, puisque là, ils avaient un jeu très, très accentué, ils surjouaient complètement, puisque justement, c'était tout le rôle du muet, c'était celui-là. Mmh. Et Pagnol a dit non, moi, si je vends mon œuvre, c'est avec mes dialogues et c'est avec les gens qui l'ont monté à Paris. Et il s'est très, très bien entendu avec Korda, on le voyait partout. Il était au montage, il était avec les ingénieurs du son, il était à la cantine avec les acteurs, il apprenait. Et il a bien fait d'apprendre, puisque dès le deuxième film, il est dessus.
Et c'est lui qui réalise à ce moment-là. L'homme qui écrit est un homme qui se console.
Alors ça, c'est une phrase...
C'est Pagnol qui dit ça.
Oui, bien sûr. Il avait coutume de le dire. Hein. C'est pas une phrase qu'on retrouve dans l'œuvre, donc ce n'est pas une citation à proprement parler. Mais oui, c'est une phrase qu'il avait coutume d'employer. Et je pense que ça résume à la fois une vérité, je pense, universelle, et vraiment son parcours à lui, oui.
Pourquoi ? Parce qu'il il a eu une vie difficile, il a eu des épreuves dans son existence personnelle, par exemple.
Écoutez, il y a quelque chose qui frappe chez Pagnol, c'est que chaque fois qu'il a un grand bonheur, derrière, il y a un deuil. C'est quelque chose d'assez... il triomphe dans Marius, il perd son frère qui est très jeune, hein, qui a 30 ans.
Il meurt de quoi, son frère ?
Paul, c'est ça, son frère.
Petit frère Paul, le petit Paul Descollines. Il a été opéré, en fait, il était épileptique et il a tenté une opération. Il est resté sur la table d'opération. Voilà, il avait 30 ou 31 ans. Et il y avait son petit harmonica sur sa table de nuit. Oui, ça a été un très, très grand choc pour Pagnol. Il avait déjà perdu sa mère à l'âge de 15 ans. Son petit ami Lily, qui est mort sur un tapis de plantes dont il ne connaissait même pas les noms, qui est donc tombé en 14, pendant la guerre de 14-18. Et puis plus tard, ce chagrin absolument insondable qui est la perte d'un enfant, il n'y a pas au-dessus.
Et c'est l'une des histoires que vous racontez dans votre livre, Un autre regard aux éditions du Rocher, c'est la perte de sa fille Estelle, c'est
Estelle,
ça
oui,
alors à ce moment-là, Pagnol, il est au sommet de sa gloire.
Il est au sommet de sa gloire, oui, il va perdre cette petite fille à 2 ans et demi d'une crise d'acétonémie, ils n'ont pas réussi à la sauver, oui.
Est-ce qu'il va en parler dans son œuvre indirectement?
Alors, oui, voilà, indirectement, c'est-à-dire que quand il écrit L'eau des collines, est un roman qui va être écrit en deux parties à partir de son film. C'est-à-dire que c'est un petit peu étonnant, c'est-à-dire qu'il a tourné le film Manon des Sources, et quand il est revenu à l'écriture en ayant abandonné le cinéma, il s'est dit, mais finalement, à partir de Manon des Sources, je vais faire le roman. Et au lieu de faire un roman qui s'appelle Manon des Sources, il en a fait deux parties. C'est Jean de Florette et Manon des Sources. Mmh. Et dans Jean de Florette, c'est une petite Manon qui est petite, c'est une petite fille blonde qui court dans les collines, et c'est une petite Estelle qui aurait pu courir dans les collines si elle avait vécu. C'est une petite fille ravissante qui ressemblait trait pour trait à Jacqueline et qui était mais vraiment d'une beauté absolue, cette petite fille. Et je pense que vraiment, elle aurait été cette petite Manon. Voilà, elle est sous sa plume dans Jean de Florette, oui.
Carinane, Marcel Pagnol a raconté sa vie dans ses souvenirs d'enfance en trois tomes, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. Est-ce qu'il a beaucoup romancé sa vie ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail sur l'imaginaire. Quand on connaît sa vie, on se rend compte que les souvenirs d'enfance ne la reproduisent pas telle qu'elle était vraiment. Il y a des choses qui sont tout à fait en marge, d'autres qui sont tues, d'autres qui sont transformées. Et puis surtout, il y a cette Provence qui est le tremplin de son imaginaire et qui est aussi d'abord personnifiée. Les sources pleurent sur la mousse. Le Taoumé perce le ciel, enfin il y a tout le temps des verbes qui sont vraiment là pour montrer qu'il y a une personnification du décor.
Et puis il se présente aussi comme le premier né de ses parents.
Oui. Et c'est faux. Et c'est faux. Sa mère a été justement ce qu'on appelait une fille mère. Il y a un petit Patrick qui est né avant Marcel, qui n'a hélas pas vécu, mais en tout cas Augustine, oui, a connu cette opprobre qui est jetée sur les femmes, enfin qui était jetée à l'époque sur les femmes qui n'étaient pas mariées alors qu'elles étaient enceintes.
Augustine, sa mère idéalisée, et puis les femmes, ses femmes, celles qu'il a épousées et les autres. On vous raconte la vie de Marcel Pagnol ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Et ce soir, dans La Curiosité est un vilain défaut, on a le bonheur de partir sur les routes de Provence avec notre invitée Karine Anne qui nous raconte la vie de Marcel Pagnol. On parlait de ses souvenirs d'enfance, la trilogie La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. Dans Le château de ma mère, il raconte l'histoire de l'humiliation d'Augustine, surprise à traverser illégalement une propriété. Qu'est-ce qu'il fera des décennies plus tard, Pagnol ?
Ben, il achète l'endroit, il achète le château de la Buzine. Et c'est très joli d'ailleurs parce que cet acte fondateur de ces studios, c'est aussi un acte qui abolit le temps. Parce qu'il va détruire justement cette palissade qu'elle avait franchie et en tombant sur ce garde. Et il a une phrase tremblante et pour jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils.
C'est magnifique.
C'est très beau, oui.
La langue de Pagnol, on a souvent l'impression qu'elle est simple. C'est une idée fausse.
Et personne ne pourrait parler comme lui. Elle est pas simple, elle est épurée. C'est une langue qui est très 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 riche en images. Quand vous avez ce que je viens de dire justement, c'est une image. Quand vous avez est-ce que Panis navigue, pas si bête, il fait des voiles pour que le vent emporte les enfants des autres. C'est une image aussi, et il n'y a pas un mot compliqué. Le seul mot compliqué, c'est cinégétique. Voilà, c'est le seul mot. C'est dans la gloire de mon père. Ouais. Voilà, c'est récit de chasse. Mais c'est tout. Sinon, on n'a jamais, jamais, jamais de mots compliqués. Mais on a des figures de style d'une richesse extraordinaire.
Pagnol, sa mère, il l'aime. Est-ce qu'il l'idéalise aussi dans son œuvre ?
Oui, elle est idéalisée parce qu'il la perd trop tôt. Il a cette jolie phrase.
Il a 15 ans, c'est ça ?
Oui, et il dit elle avait 19 ans et elle les eut toute sa vie. Donc il a gardé de sa maman cette image de la frêle Augustine, peut-être aussi une certaine forme de culpabilité de se dire on n'a pas pu la protéger, elle est partie quand même. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, par recoupement, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'en fait, elle ne s'était jamais vraiment remise de sa dernière grossesse. Et curieusement, donc, la naissance de René l'a beaucoup affaiblie et il ne parle pas de cette naissance dans les souvenirs d'enfance. C'est quelque chose qui est trop douloureux. Alors qu'il a eu d'excellents rapports avec René par la suite.
Karine Anne, est-ce que Marcel Pagnol était un séducteur ?
Un homme. Moi, en tout cas, il m'a séduite. Oui. C'était un séducteur. Alors évidemment, le succès aide. Il en était très conscient. Il a même mis en scène des femmes vénales. Donc, il était tout à fait conscient du fait que on pouvait effectivement s'intéresser à lui pour ce qu'il représentait. D'ailleurs, il le disait. J'aurais beaucoup aimé qu'on s'intéresse à moi quand j'étais jeune et sans le sou. Et aujourd'hui, je crois croise des femmes parce que je les ai vues nues 5 minutes, il faut que je les habille toute une vie.
C'est merveilleux.
Donc il avait quand même conscience de ça.
Il épouse plusieurs femmes ?
Alors il en a épousé deux en fait, hein. une quand il était très jeune, Simone Collin, contre l'avis de son père, il est donc monté à Paris avec elle. Il a eu la mauvaise idée de se marier sous le régime de la communauté puisqu'il n'avait rien quand ils se sont mariés tous les deux.
Erreur
fatale parce que quand il a voulu effectivement se séparer d'elle, quand il était fou amoureux de Josette Day, ça lui a coûté la moitié de sa fortune. Donc voilà, ce qui d'ailleurs montre à quel point il était très 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 épris de Josette Day.
Donc deuxième mariage avec Josette Day.
Non, il l'a pas épousée.
Elle l'a
non.
Pas épousée.
Et entre-temps, il y avait eu Aurane de Mazis pour laquelle il n'a pas divorcé non plus. On peut quand même légitimement penser qu'il a eu dans l'idée d'épouser Josette Day, raison pour laquelle il a divorcé d'avec Simone Collin. Non, la seule personne qu'il ait épousée ensuite, c'est Jacqueline.
La maman de la petite Estelle dont on,
voilà,
dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, et de Frédéric.
Une femme qui aime vraiment, mais toujours un enfant au monde. C'est l'une des constantes de l'œuvre de Pagnol que vous décrivez dans votre livre publié aux éditions du Rocher. Et ça nous amène à l'une de ses pièces les plus connues, La femme du boulanger. Aurélie, elle n'a pas d'enfant avec le boulanger.
Non, c'est un film, qui a été tourné à partir d'une nouvelle de Jean Giono qui s'appelait Jean le Bleu, qui était une petite nouvelle, et Pagnol en a fait le film qu'on connaît et qui a eu un succès magnifique. Alors oui, Aurélie, on découvre en fait par petites touches qu'en fait elle a probablement déjà eu un amant avant le boulanger. Il y a quelques petites phrases comme ça qui disent « Oui, elle allait à la messe, on savait pas très bien où elle était quand on était dans l'autre village, etc. » Et effectivement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est mariée à un barbon qu'on retrouve chez Molière. Qui,
un barbon c'est quoi ?
Un vieux monsieur.
Voilà.
Enfin, à l'époque, évidemment, hein, c'est quand même très relatif, hein, parce que ça n'est pas.
C'était un homme
plus
de 50 ans pour l'époque.
Oui,
hein,
à l'époque,
monsieur,
voilà.
Mais, un homme comme vous. Mais
elle était sympa, cette perche que je vous ai tendue.
J'avais pas envie de la prendre, mais bon.
Mais c'est un ressort dramatique qu'on retrouve quand même. Hein. On le retrouve chez Molière. Voilà, c'est les jeunes filles convoitées par des barbons. C'est aussi Panis avec Fanny. C'est un thème aussi qui revient chez lui.
Et quand le barbon veut parler de l'infidélité de sa femme, ça donne l'une des plus belles scènes écrites par Pagnol quand le boulanger parle à sa chatte Pomponnette comme s'il s'adressait à sa femme.
Ah, mais la voilà. Tu l'as vu retourner la Pomponnette? Dis, garce, salope, oh dur, c'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre Pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de fesses depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune.
Vous voyez dans cette scène, Carinane, l'influence des classiques. Il y a du Racine dans Pomponnette, allons bon.
Oui, parce que c'est assez rare pour être signalé. C'est le même principe, le même procédé qu'on retrouve dans Phèdre. Quand Phèdre, en fait, s'adresse à Thésée, alors que c'est à Hippolyte qu'elle souhaiterait parler. Ben là, c'est la même chose. Mmh. Il s'adresse, en fait, à la chatte Pomponnette, alors qu'il s'adresse à sa femme. Mais on retrouve ça chez Pagnol. Il y a des influences. Je pense notamment à Molière, ce côté farce de Molière. Vous avez des dialogues. Le curé, vous êtes, je crois, tout frais émoulu de l'école normale, et l'instituteur qui répond, vous êtes, je crois, tout récemment éclos du grand séminaire. Voilà, il y a cette espèce de d'écho qu'on retrouve dans la farce 17e de Molière, oui.
On vous raconte la vie de Marcel Pagnol ce soir sur RTL, et forcément, le voyage nous emmène.
Mais oui, on n'y est pas encore
en Provence. On va se balader dans la Garrigue dans un instant, dans la curiosité.
Vous écoutez RTL. Vilain défaut.
Mais non, Manon, ne le prends pas comme ça, Manon.
RTL.
Un soir, dans le malheur de ma fille, j'ai trouvé un enfant. Pour moi, c'est comme si je trouvais un porte-monnaie.
Jusqu'à 22h.
Tu me prends le cœur, hein.
Oh, allons, César.
Pas de César, tu me prends le cœur.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Marcel Pagnol est né le 28 février 1895, il y a 120 ans, à Aubagne. Et il a fait de la Provence le décor magnifique de son œuvre. Carinane, vous êtes écrivain, vous publiez Marcel Pagnol, un autre regard aux éditions du Rocher. Quelle Provence décrit Pagnol ?
La sienne.
Elle ressemble à quoi ? Un peu idéalisé aussi, comme sa maman.
Oui, voilà. Oui, c'est une Provence qui est à la fois une Provence qui a existé. Il y a des marqueurs temporels qui sont quand même là et qui sont forts. Il nous parle de l'arrivée du tramway, les premières fois où on boit du thé. Donc, c'est quand même une Provence qui a existé. Et puis. D'un seul coup, quand il arrive dans les collines, il y a une espèce de glissement comme ça. Et là, on se rend compte que c'est l'endroit où il retrouve ce qu'il appelle ses chères ombres, c'est-à-dire ses disparus. C'est sa famille, c'est son père, c'est sa mère, c'est son petit frère, c'est tous des gens qu'il a perdus au moment où il écrit. Il a 60 ans, 60, 62 ans. Donc, c'est une façon pour lui de les retrouver à partir de ces récits qui touche parfois au merveilleux. Ce qui est extraordinaire, c'est le travail qu'il effectue sur le temps. C'est-à-dire que quand vous lisez les souvenirs d'enfance, vous avez l'impression qu'il nous décrit un été. Un été de vacances.
C'est vrai.
Et pas du tout. Quand vous prenez garde, effectivement, au récit, d'abord, il y a déjà plusieurs grandes vacances, et vous vous rendez compte qu'on part effectivement de l'âge de 7-8 ans où il commence à aller dans les collines, et on arrive avec la scène que vous décriviez tout à l'heure où il effondre cette palissade parce qu'il a acheté le château de la Buzine, et là c'est le Pagnol, le cinéaste, qui est en train d'installer ses studios. Donc en fait c'est toute une vie.
Souvenir d'enfance, le premier volet, c'est La gloire de mon père.
Oui.
J'ai vraiment le souvenir de cette lecture. On se voit marcher, on rêve de marcher pendant des heures dans cette Provence. Elle correspond à quel lieu de l'enfance de Pagnol et où et quand y a-t-il vécu après la mort de sa mère, c'est ça ?
Alors non, pas du tout. Il allait dans les collines en fait.
Même avant.
Oui, voilà, bien sûr. Il allait dans les collines pour les vacances. Joseph avait décidé que ça ferait du bien à Augustine de respirer le bon air, etc. Et c'était donc dans le massif de l'Étoile, à la Treille, et donc il marchait longtemps, il prenait le tramway, il marchait longtemps pour aller passer, en fait, Joseph étant instituteur, il avait les 2 mois de vacances, donc il passait ce temps-là dans les collines.
Mais ils avaient acheté une petite maison dans...
Il la louait.
Ah, il louait une maison,
Il louait une maison avec l'oncle Jules, et donc toute la famille, la tante Rose, l'oncle Jules, ils se retrouvaient là-bas pour les vacances, il y allait même pour les vacances de Noël, et c'était des souvenirs. Pagnol dit, la première fois qu'il arrive dans les collines, je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie, et au point qu'après il a acheté, effectivement, les collines aujourd'hui lui appartiennent. Le massif de l'Étoile, c'est en grande partie la propriété de la famille Pagnol.
Encore aujourd'hui ?
Ah oui, bien sûr.
Dans la Provence de Marcel Pagnol, l'eau joue un rôle souvent essentiel, comme dans Jean de Fleurette.
Il y a quelque chose qui me tracasse.
Et quoi ?
Un pied de hier, ça boit comme un homme. Pour arroser mes 50 plantes, il a fallu m'arracher la peau des mains sur la corde du puits.
Ça va être une citerne avec une pompe.
Ouais, mais si on arrose 500 plantes, la citerne sera vide au bout de 4 jours. Alors, ce qu'il faudrait, c'est creuser un bassin énorme avec des rigoles qui ramassent toutes les pluies du vallon.
Mais si une année il ne pleut pas, non, ce qu'il faut, c'est trouver un terrain près d'un point d'eau naturel. Et si on achetait le champ et la source de Pique-Bouffigue là-haut, au Romarin ?
Elle a encore de l'eau, cette source ? J'ai entendu parler par mon père, mais il me disait qu'elle était morte.
Ah, elle est plus qu'à moitié bouchée, ça, c'est sûr.
C'est Hugo Lain et le papé, évidemment, Daniel Auteuil, Yves Montand. Pourquoi l'eau fascinait autant Marcel Pagnol, Karinane ?
Parce que la Provence, c'est le pays de la soif. Et qu'une source, ça vaut de l'or. C'est un trésor, il le dit, il l'écrit. Et une source, ça se dit pas. Voilà. Donc, il arrive qu'on meure en emportant le secret de la source. Et donc, le petit Lily l'explique. Marcel dit, mais c'est couillon quand même de pas le dire. Il dit, oui, mais c'est comme ça, parce qu'une source, c'est un trésor. Et dans un pays de la soif, un terrain, une propriété, un mât provençal a une valeur inestimable si, en effet, il y coule une source.
Marcel Pagnol lui-même cherchait des sources ?
Oui, il était sourcier, il est avec une baguette de coudrier. On a des photos où il est en train de chercher des sources. Et ça marchait d'ailleurs, il en a trouvé plusieurs, oui.
Mais Karinane, c'était un citadin, pourtant. Marcel Pagnol, il a vécu à Marseille et ensuite à Paris.
Oui, mais j'allais dire par la force des choses, et son parcours montre bien que dès qu'il pouvait redescendre dans les collines, c'est là qu'il y a installé ses studios. C'est pas non plus un hasard s'il y a tourné tous ses films. Mmh. C'était une façon pour lui de joindre l'utile à l'agréable. Il descendait en fait sur le lieu de son enfance qu'il avait envie de retrouver, et les tournages, on faisait des battues pour éloigner les cigales, parce que sinon ça faisait trop de bruit, on n'arrivait pas à prendre le son. et on tournait.
Comment ça se passait, un tournage de film de Marcel Pagnol ? C'est quoi l'ambiance ?
C'était une grande famille. C'était une équipe qui s'installait. Bon, déjà, il faut se représenter le massif de l'Étoile, quand même, c'est pas forcément facile d'accès, hein, donc porter les grosses caméras, etc., c'était déjà un bon trajet. Donc quand on était installé, on y passait vraiment la journée. Et comme il fait très très chaud, en fait, on tournait le matin à la fraîche quand on pouvait tourner. Et puis alors après, on s'installait, le pastis, le déjeuner, la sieste, la partie de boule, et puis on reprenait un petit peu vers le soir. C'était des tournages. Tous les gens qui les ont vécus en ont gardé des souvenirs absolument merveilleux.
Marcel Pagnol est mort à Paris en avril 74, à l'âge de 79 ans. Il est enterré où ?
À La Treille.
En Provence.
Donc en Provence, oui, bien sûr. Et sa petite fille est enterrée avec lui.
Sur sa tombe, en guise d'épitaphe, il y a une citation de Virgile.
Oui.
Vous l'avez en tête ?
Il a aimé.
On a tout pris dans votre livre.
Fontis uxorem, fontis amicorum, et uxorem delixit.
Et je vais vous traduire ça comme ça.
Vous ne demandez pas en latin.
Il a aimé ses amis. Voilà, il a aimé les sources, ses amis, sa femme. Je pensais que vous me l'aviez
demandé. Bon, quand même. On n'est pas comme ça.
On est curieux, mais pas à ce point.
Merci beaucoup, Karinane.
Merci à vous.
C'était passionnant. Merci de nous avoir fait partager la vie et l'œuvre de Marcel Pagnol. Un autre regard. Votre livre est publié aux éditions du Rocher.
Vous écoutez RTL.